Accent d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission qui scrute la vie des Européens. À 10 jours des élections, zoom sur deux formations populistes. Et d'abord le DF, le Parti du Peuple Danois, qui s'enracine dans le paysage politique du pays scandinave. Il serait même en tête des intentions de vote des élections européennes du 25 mai, comme en France pour le FN. C'est en tout cas ce qui ressort d'un sondage qui leur attribue plus de 25% des voix dans un pays traditionnellement mené par les sociaux-démocrates et le Parti libéral. Et ce succès, ce parti d'extrême droite, le doit certainement en partie à la forte personnalité de ses leaders. Reportage à Copenhague, Sungshim Courrier.
Le débat de ce soir oppose Morten Messerschmidt du Parti du Peuple Danois à un autre Morten Løkkegaard du Parti libéral Venstre. Le thème de la soirée porte évidemment sur l'Union européenne. Kirsten a 53 ans, elle est employée de banque. Selon elle, ce n'est pas facile de montrer sa carte de membre du Parti du Peuple Danois en public.
Je pense que les gens ne se sentent pas à l'aise de dire qu'ils votent pour le Parti du Peuple Danois. Ils ont peur de se faire traiter de raciste ou de trucs dans le genre.
Mais ce n'est pas un parti raciste.
Non, je ne le pense pas. Ils sont à l'écoute des gens. Ce ne sont pas juste des mots sans aucune action derrière. Je trouve qu'ils essayent de comprendre les citoyens et pas seulement d'obtenir un siège à Bruxelles, au Parlement européen et de recevoir un gros salaire à la fin du mois.
Vous avez toujours voté pour eux ?
Avant, je votais pour un parti de gauche, mais il ne correspondait plus à mes valeurs, alors que c'est le cas du Parti du Peuple Danois.
Et quand avez-vous changé d'avis ? Il y a 3 ans, 4 ans ?
Non, il y a 15 ans juste, quand Pia Kjærsgaard est arrivée.
Pia Kjærsgaard, c'est l'ancienne présidente du parti. C'est aussi une figure bien connue de la scène politique danoise. Et si tous les Danois ne partagent pas toujours ses idées, cette femme de poigne a su se faire respecter pour son travail et ses qualités de leader. C'est sous son mandat de présidente du parti que le DF avait réussi notamment à imposer des mesures contre l'immigration parmi les plus restrictives d'Europe en échange de son soutien au gouvernement minoritaire de centre-droit. Ce soir, elle est aussi venue apporter son soutien à Morten Messerschmidt.
Morten est une figure importante du parti et il explique très bien les choses. Il est aussi très populaire. D'ailleurs, les gens disent, et pas seulement les membres du Parti du Peuple Danois, il y a Morten et puis il y a les autres.
Qu'est-ce qui fait que Morten soit si populaire, vous croyez ?
Il fait partie de la machine européenne depuis des années. Il en connaît tous les rouages. C'est un homme très occupé. Il fait beaucoup de choses. Il voyage énormément dans tout le Danemark. Mais il peut aussi être un mauvais garçon. Et je crois que c'est ça qui plaît aux gens. Parce que quand il le fait, c'est toujours avec le sourire.
Du lytter til Europa i flammer her på Radio 24/7. Det er blevet søndag eftermiddag. Det betyder, at undertegnet det er Dan Jørgensen, og på den anden side af bordet Morten Messerschmidt sidder klar.
Morten Messerschmidt jouit en effet d'une grande popularité. Il co-anime une émission de radio sur le thème de l'Europe sur la chaîne danoise 24/7 et il a été l'un des personnages d'un magazine télévisé consacré à l'Union européenne sous forme de carnet de voyage loin de Bruxelles. Morten est toujours tiré à 4 épingles. Ce soir, il porte un pantalon de couleur vive à motif écossais. Il faut dire que le jeune homme sait y faire. Il cultive son image de gendre parfait et il se distingue par son sens de l'humour. Son cheval de bataille, une régulation plus stricte en matière d'immigration, des idées résumées dans un slogan simple et clair, plus de Danemark, moins d'Europe.
Nous sommes confrontés à une immigration des pays membres de l'Union européenne qui arrivent au Danemark pour travailler et qui, après un temps de résidence très court, a droit aux avantages sociaux, comme les allocations familiales. Et ça entraîne plusieurs problèmes. Tout d'abord, une pression sur les salaires danois parce qu'évidemment, si vous obtenez l'équivalent de votre salaire annuel en Bulgarie ou Roumanie, rien qu'en touchant des allocations familiales, vous n'avez pas beaucoup de raisons de réclamer un juste salaire pour votre travail. Ça a un impact sur le marché du travail danois. Ensuite, ça entraîne la question de la justice fondamentale. Est-ce qu'il est juste que des gens puissent venir sans contribuer de manière significative à l'économie du pays et rester au Danemark en profitant d'avantages sociaux ?
Récemment, au mois de novembre, si je ne m'abuse, un autre parti français, le Front National, a voulu se rapprocher du parti du peuple danois. Une offre que vous avez déclinée. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi ?
Parce que je ne vois aucune similarité entre le Parti du Peuple danois et le Front National. Le Front National trouve ses marques dans une approche antisémite. Ils sont en faveur d'une économie fermée, du protectionnisme. Et de toute façon, je ne pense pas qu'ils aient les mêmes valeurs que celles de notre parti. Nous avons de très bons alliés au sein du Parlement européen qui, je l'espère, nous soutiendront lors de ces élections européennes. Mais le Front National ne compte pas parmi eux.
Le Parti du Peuple danois a fait un bond de 10% dans les sondages, récupérant ainsi une partie de l'électorat hésitant. DF surfe sur la vague de l'euroscepticisme ambiant, causée en partie par l'obligation d'étendre les allocations familiales et les bourses étudiantes à tous les citoyens de l'Union européenne. Une décision qui a fait couler beaucoup d'encre dans le pays.
Wir halten zusammen, nein, wir geben nicht auf, die Rettung ist alternativ.
Et en Allemagne, c'est donc l'AfD, Alternative für Deutschland, qui va très certainement faire son entrée au Parlement européen. Ouvertement anti-euro, eurosceptique, ce parti a su en quelques mois s'imposer dans le paysage politique allemand. Depuis Berlin, Julien Méchaussier.
Souvenez-vous, c'était en septembre dernier, au soir des dernières législatives. Angela Merkel se présente triomphante au siège de son parti, la CDU. Les chrétiens-démocrates ont de bonnes raisons de jubiler, leur championne est assurée de repartir pour un troisième mandat. Pour de nombreux Allemands, la chancelière a non seulement sauvé l'euro, mais sa ligne dure a aussi permis de protéger leur argent. Si le tableau est presque parfait, Angela Merkel sait pourtant déjà qu'elle est passée de peu à côté de la majorité absolue au Bundestag. La faute à un tout nouveau parti, créé au printemps 2013 et qui a récolté près de 5% des suffrages. Si Alternative für Deutschland a raté d'un cheveu son entrée au Parlement, le parti a réussi en un temps record à capter les voix de conservateurs déçus. Ceux qui rejettent le dogme, il n'y a pas d'alternative à la zone euro. Crédité par les sondages d'environ 6% des voix, l'AfD et sa tête de liste, Bernd Lucke, peuvent espérer remporter le 25 mai prochain entre 4 et 6 sièges au Parlement européen. Coincée par la grande coalition entre la CDU et les sociaux-démocrates du SPD, la campagne ne décolle pas. Les thèmes importants, et donc qui fâchent, sont évités pour ne pas créer de conflits au sein du gouvernement. Cette ambiance morne profite grandement à l'AfD et à son programme qui détonne. Fin de l'euro, cette erreur historique, et union monétaire avec les pays du nord de l'Europe. Les grossières affiches de campagne versent également volontiers dans le populisme. On y voit une chancelière allemande à côté d'une poubelle remplie de billets avec pour seule légende « Voilà où atterrit notre argent ». Ou encore une Union européenne mise au même niveau de démocratie que le régime nord-coréen. Le parti n'hésite pas non plus à expulser de ses meetings les journalistes jugés trop critiques. Bernd Lucke a également durci son discours sur les travailleurs étrangers et les demandeurs d'asile, toujours avec le même leitmotiv, occuper le terrain laissé libre par une CDU qui se serait trop rapprochée du centre.
Autre effet repoussoir de l'Union pour les populistes, la crise grecque, une crise grecque dont on a beaucoup parlé et qui, de ce fait, a occulté les difficultés d'autres pays européens. Le Portugal, notamment, lui aussi s'est retrouvé dans une situation économique très difficile. Le dérapage des comptes publics a été tel que le gouvernement a dû demander l'aide de la Troïka. En contrepartie d'un plan de sauvetage de 78 milliards d'euros, Lisbonne a dû mettre en place une cure d'austérité qui est passée par des baisses de salaires dans le secteur public, du nombre aussi de fonctionnaires, augmentation des taxes, coupes dans les pensions. Les retraités en paient le prix fort. Olivier Henrion est parti à la rencontre de ces pensionnés portugais.
Hola, Olivier.
Rosa.
Bienvenue. Entra.
Il y a 5 ans, Rosa était encore professeure de biologie. Aujourd'hui, elle est à la retraite dans son petit appartement de Coimbra. Et sa fiche de paye n'est plus qu'une longue liste de taxes et de contributions sociales.
ADSE 2,5%.
2,5% pour la protection sociale de la fonction publique, une taxe sur le 13e mois, une cotisation de 25 euros, 27% d'impôt sur le revenu, la même chose.
9 taxes différentes contre à peine 3 il y a un an. Les retraités portugais ont été parmi les plus touchés par les mesures d'austérité. Rosa a vu sa pension amputée de 500 euros par mois.
On a dû changer beaucoup de choses. On doit économiser parce que mes enfants sont au chômage. Je dois les aider, et puis il y a aussi les prêts pour la maison. Je dois faire attention à toutes mes dépenses. On vit mal, très mal.
87% des retraités portugais touchent aujourd'hui moins de 500 euros par mois. Et certains ont dû se remettre au boulot. C'est le cas de Tilia. Elle a longtemps tenu un commerce dans le sud du Portugal avant de prendre sa retraite. Mais aujourd'hui, elle a dû reprendre le chemin du travail comme femme d'ouvrage.
J'ai 75 ans.
Et vous travaillez encore à votre âge?
Je travaille parce que j'en ai besoin. Je reçois une pension de 166 euros par mois.
Et c'est quoi votre travail ici?
Les travaux ménagers. Je fais à manger, je lave la vaisselle. Ce qui se fait dans une maison.
Vous avez des amis qui sont dans la même situation que vous?
Oui, j'en ai. Quelques-unes. J'en connais qui ne reçoivent que 100 euros de pension par mois. Pas assez pour vivre, pour payer son loyer, l'eau, le gaz, l'électricité. Les pensions ici au Portugal sont vraiment très très petites pour les gens de ma génération.
Son travail et le logement qui va avec lui ont permis de sortir de la zone de pauvreté où se trouve aujourd'hui près d'un Portugais sur cinq. Mais à quel prix? Et jusqu'à quand aura-t-elle la force de travailler? Aujourd'hui, Tilia préfère ne pas y penser.
Média.
Bonjour Laurent Berto.
Bonjour Catherine.
Alors ceux qui nous suivent avec une grande fidélité savent que vous revenez de Slovénie. Et vous avez notamment choisi de nous parler d'un journal, d'un titre que tous les Slovènes connaissent au moins de nom. Mladina, journal fondé en 1920 qui a traversé les époques et les régimes politiques, mais dont la ligne a souvent été constante, celle de l'opposition systématique au pouvoir.
Oui, peut-être parce que Mladina signifie jeunesse en slovène et que c'est le propre de la jeunesse de se rebeller contre l'ordre en place. À l'origine, Mladina est créée par la section jeune du Parti communiste de Yougoslavie. Juste un an avant l'interdiction du PC en 1921, le journal commence à circuler sous le manteau, diffusant les opinions non seulement des communistes, mais aussi de tous les jeunes opposés au système capitaliste. Mais dans les années 30, sous la dictature du roi Alexandre Ier, le journal disparaît avant de renaître discrètement de ses cendres en 1943, étendard de la lutte antifasciste. En 1945, à la fin de la guerre, Mladina redevient l'organe officiel des jeunes communistes.
Et il faudra attendre le milieu des années 80 pour que le journal retrouve tout son mordant.
En 84, en tout cas, le journal est au plus bas. Il est transformé en fanzine pour ados. Avant de se radicaliser, dénonçant les scandales de corruption au sein de l'État, se faisant ainsi l'écho des mouvements contestataires qui apparaissent dans la Yougoslavie communiste, comme le souligne Igor Vobić, spécialiste des médias à l'université de sciences sociales de Ljubljana.
Ils ont commencé à critiquer le gouvernement fédéral, l'armée, le système socialiste en général et son fonctionnement, des idées qui étaient vraiment nouvelles en Slovénie. Ils ont fait beaucoup d'enquêtes, ça aussi c'était nouveau, et bien sûr ont eu beaucoup de problèmes avec la censure. Et Mladina a vraiment joué un rôle important dans l'indépendance de la Slovénie et l'évolution du pays vers une société démocratique occidentale. C'était un journal progressiste important, pas seulement en Slovénie, mais dans toute la Yougoslavie. Mladina était un exemple unique de presse indépendante. Paradoxalement, ce journal était financé par le régime, comme tous les autres journaux, ce qui montre bien que certains, au sein du parti, étaient favorables aux réformes.
Igor Vobić, spécialiste des médias. Alors, en 1991, la Slovénie devient indépendante, mais Mladina ne lève pas le pied pour autant, multipliant les critiques contre le pouvoir. Et ça continue encore aujourd'hui, Laurent.
Oui, désormais, Mladina est un hebdo, essentiellement tourné vers la politique, avec un peu de culture quand même. Un magazine clairement de gauche, mais beaucoup plus assagi, réservant ses piques à un seul et unique adversaire, selon Igor Vobić.
Les critiques de Mladina se concentrent essentiellement sur les grands partis de droite, le Parti démocratique de Slovénie et le Parti chrétien-démocrate. L'ancien Premier ministre fait régulièrement la une. À réduire son champ de vision au parti politique, Mladina a perdu de son acuité sur les changements sociaux.
Alors Laurent, en clair, Mladina aurait perdu de sa hargne naturelle?
Au magazine, en tout cas, on s'en défend. J'ai rencontré l'un des journalistes de la rédaction, Borut Mekina.
Nous, on défend l'intérêt public. Si on voit que quelque chose ne va pas, on enquête et on enquête jusqu'au bout, on expose notre point de vue. Par exemple, aujourd'hui, je vais interviewer le directeur de l'un de nos plus grands organismes de santé. Il y a tout un débat actuellement dans le pays sur la santé. J'écris un article sur une étude qui a été financée par un organisme de santé. Ce que je cherche à prouver, c'est que cette étude a été menée dans un but lucratif, au bénéfice de cet organisme, pas dans l'intérêt public.
Voilà une étude à découvrir sur le site de Mladina, pour peu que vous parliez slovène, Catherine.
Bon, cela veut dire que le journalisme d'investigation est toujours privilégié dans le magazine. Jeune, opposé, radical, ce sont trois mots qui définissent aussi le jeune rédacteur en chef de Mladina.
Oui, le volubile Grega Repov, ce qui fait feu de tout bois, bien difficile de l'arrêter une fois qu'il est parti.
Ça sert à quoi d'être dans un entre-deux? On a deux options, soit on essaie de comprendre les arguments de la droite et on s'en rapproche, en oubliant de défendre l'intérêt social, soit on dit stop, ça suffit. On ne veut plus vous écouter ni discuter avec vous, on reste de notre côté.
Alors pour conclure, hein, Laurent, est-ce que le titre quasi-centenaire se vend bien aujourd'hui?
Bah écoutez, pas si mal, hein, pour un hebdo politique engagé et pas forcément consensuel, il en irrite pas mal hein, dans le pays. On compte 63 000 lecteurs de l'édition papier chaque semaine pour 10 000 exemplaires vendus, sans compter les consultations sur le net. À titre de comparaison, le grand quotidien Delo se vend, lui, à 143 000 exemplaires par jour. Alors, la jeunesse ne veut toujours pas rendre les armes et ne désespère pas de trouver un nouveau public parmi les jeunes Slovènes qui ne tarderont pas à revenir des joies du capitalisme, c'est du moins l'espoir de son rédacteur en chef.
Merci Laurent et à découvrir prochainement dans Accent votre reportage sur l'identité slovène. À la découverte de l'express côtier pour découvrir donc la côte norvégienne jusqu'au pôle. Mais avant d'être une croisière, cette ligne mythique est avant tout une ligne régulière au service de la population. Isabelle Romero.
Chaque jour, l'express côtier quitte Bergen pour remonter jusqu'à Kirkenes, soit 2400 km de navigation en 7 jours et 34 escales. S'il emmène à son bord des touristes en croisière venus admirer les fjords, les aurores boréales ou le soleil de minuit, il assure aussi une véritable mission de service public en reliant les villes et les villages les plus isolés. En effet, depuis plus de 120 ans, la ligne de l'express côtier de la compagnie Hurtigruten navigue 7 jours sur 7 toute l'année. Une façon authentique de découvrir la Norvège. Christine Bois, directrice de Hurtigruten France.
Bien sûr, on va découvrir des endroits emblématiques comme le fjord de Geiranger, qui est le patrimoine de l'UNESCO, ou les îles Lofoten, ou même le Cap Nord. Mais on va aller également là où les autres ne vont pas. On fait parfois des escales où il y a une dizaine de maisons pour apporter le courrier, le fret, qui est notre mission première en fait. Et on a donc sur nos 34 escales, 22 qui se passent au-dessus du cercle polaire. Avec des journées très longues, à Kirkenes, le soleil se lève à 4h du matin. Et dans le sud, on est sur la partie printemps. Donc à Bergen, vous avez les petites fleurs, les feuilles qui arrivent. Donc en fait, facilement, en 7 jours, vous faites un voyage qui vous fait découvrir 3 saisons.
Mais pour les amateurs d'extrême, il est possible d'aller encore plus loin, grâce à un autre bateau de la compagnie, spécialement conçu pour les croisières d'exploration. Ce bateau peut aussi vous emmener en Islande et bien plus loin encore, sur les traces des grands explorateurs norvégiens que furent Nansen et Amundsen, partis au siècle dernier à la conquête des pôles.
Accent d'Europe, c'est déjà fini. À la réalisation, Françoise Grelot. Vous pouvez évidemment nous réécouter sur le site rfi.fr ou sur Facebook. Restez à l'écoute dans un instant, les infos.